Today's Planet Earth, our loving home, will be presented in French with subtitles in Arabic, Oasis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Bonjour téléspectateurs dévoués. Cette semaine, Planète Terre, notre foyer aimant, vous présente l'éco-sociologue canadienne, auteure et pionnière du commerce équitable, Laure Waridel. Madame Waridel s'efforce de nous sensibiliser sur le pouvoir des consommateurs et comment nos achats peuvent affecter l'industrie alimentaire, notre santé et notre planète. Elle est engagée depuis longtemps dans la promotion d'une consommation responsable dans sa province natale du Québec et bien au-delà à travers des campagnes de sensibilisation. Elle a également écrit ou co-écrit plusieurs livres sur le mode de vie durable, dont « L'envers de l'assiette »,« Acheter, c'est voter » et « Une cause café ». L'École des hautes études commerciales de Montréal et le journal La Presse ont salué l'excellence des deux premiers ouvrages par le prix du public du livre d'affaires et le prix Communication et Société. Pour honorer ses efforts inlassables, le magazine Maclean's, une grande publication canadienne sur l'actualité des affaires, l'a classé parmi les 25 personnalités canadiennes qui changent notre monde. En 2005, l'honorable Thomas Mulcair, ancien ministre du Québec du Développement durable, de l'environnement et des parcs, a nommé Mme Waridel au Cercle des Phénix de l'environnement, un hommage aux écologistes les plus en vue de la province. Parmi les anciens récipiendaires figurent des personnes remarquables comme Hubert Reeves et Frédéric Back. Laure Waridel est actuellement professeure à la Faculté de gestion de l'Université McGill à Montréal et donne des cours sur les investissements durables. Elle est aussi chroniqueur pour deux magazines. L'un est publié par l'Université de Sherbrooke, Canada, et l'autre est le Sélection du Reader's Digest. Laure Waridel souligne l'importance, en tant que consommateur, de faire des choix à la fois écolo et socialement responsables pour aider à surmonter les nombreux défis que la Terre connaît aujourd'hui.
Bien, les 3NJ, c'est un concept que j'ai développé dans mon livre « L'envers de l'assiette ». Puis 3NJ, c'est pour « nu », « non loin », « naturel » et « juste ». Donc « nu », c'est d'abord pour privilégier les aliments qui sont les moins emballés possibles. Il y a beaucoup de suremballage. On génère beaucoup de déchets avec ça. Ensuite, l'emballage qu'on a le recyclé. Vous savez que 40% de notre sac d'ordures est fait de matière compostable qui, une fois compostée, contribue à enrichir la terre, à redonner à la terre ce qu'elle nous a donné par les aliments, mais envoyé dans un site d'enfouissement, ça a l'effet contraire. En fait, ça crée du méthane, qui est un gaz à effet de serre 20 fois plus puissant que le CO2. Donc, ça contribue véritablement au changement climatique et à toutes sortes de problèmes. Non loin, c'est pour l'achat local, donc privilégier les produits qui viennent d'un périmètre le plus proche possible pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour soutenir aussi l'économie locale. Le naturel, pour essayer d'acheter des produits les plus biologiques possibles, les moins transformés possible. Ça inclut aussi une réduction de notre consommation de viande parce qu'on sait que la viande nécessite beaucoup plus d'énergie dans la production, sans parler des émissions de gaz à effet de serre aussi qui sont générées à chaque étape de production. Juste pour une question aussi de justice sociale, donc choisir des petites entreprises, privilégier le commerce équitable, c'est parmi les gestes qu'on peut poser. Donc avoir les 3NJ en tête quand on fait l'épicerie, c'est ça nous donne des outils pour prendre des décisions, puis au moins ça nous donne des paramètres qui nous permettent de nous orienter un petit peu.
Le terme « kilomètre alimentaire » correspond à la distance que parcourt un aliment entre son lieu de production et l'épicerie. Une étude de 1997 a montré que le kilométrage alimentaire moyen aux États-Unis était de 980 000, soit 1577 km. En 2004, cette distance s'est élevée à 1230 milles, soit 1979 kilomètres.
Le système agroalimentaire est devenu de plus en plus dépendant de l'énergie fossile. Nos aliments voyagent d'un bout à l'autre de la planète. Souvent, ils sont transformés dans un pays, après ça, l'autre étape est dans une autre, etc. Donc, ça nécessite énormément d'énergie. Ça met encore plus de pression sur la demande pour le pétrole, tout ce déplacement de nourriture et le mode de production aussi.
Le commerce équitable responsabilise les consommateurs et réduit les inégalités dans le monde. L'achat de produits certifiés équitables permet aux petits agriculteurs des pays en voie de développement de recevoir un prix juste pour leur culture respectueuse de l'environnement, comme le café, le thé, le sucre et le cacao. En 2008, les ventes de produits certifiés équitables ont atteint 4,08 milliards de dollars US en croissance de 22 % par année. Maintenant, plus d'un million de producteurs et de travailleurs dans 58 pays en voie de développement bénéficient des ventes équitables.
Moi, je pense qu'au fil d'une journée, on a une panoplie d'opportunités pour passer à l'action. Dès qu'on se lève, de par les vêtements qu'on porte, d'où ils viennent, comment ils ont été produits, est-ce qu'on peut réduire notre consommation en partant? Est-ce que de par nos choix alimentaires, de pouvoir manger 3 fois par jour, mais 3 fois par jour, on peut poser des gestes vers la réduction de la taille de notre empreinte écologique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire choisir prioritairement des aliments biologiques, locaux, équitable, les moins emballés possibles, réduire notre consommation de viande, manger moins de produits transformés. Donc, ça demande des changements d'habitude. On a le pouvoir de le faire. Ça, c'est un élément qui est très positif.
Oui. Vous aviez mentionné avant, vous avez écrit un livre, Acheter, c'est voter. Comment est-ce que le choix que font les consommateurs soit comparable au choix qu'ils font lors d'une campagne électorale?
Parce qu'on dit souvent que l'argent mène le monde, hein? Mais si l'argent mène le monde, on doit se poser la question, qu'est-ce que nous, on fait avec notre argent? On va voter tous les 4 ans, mais on consomme tous les jours. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer d'orienter l'économie pour faire en sorte de réduire l'impact environnemental et social qui est négatif? Donc, c'est de voir comment on peut utiliser notre argent pour aller dans cette direction-là. Souvent, acheter, c'est voter, c'est aussi simplement ne pas acheter. Faire ce choix-là, c'est aussi un choix politique. Donc, je dis pas que le pouvoir de consommation doit remplacer le pouvoir électoral, loin de là, mais c'est un moyen de plus qu'on a comme citoyen pour agir.
Après ce bref message, nous entendrons d'autres réflexions de la sage écologiste Laure Waridel. Veuillez rester à l'écoute de Supreme Master Television.
À côté d'une porcherie, des porcs qui passaient leur vie sur du béton, voire du grillage en métal. Les mamans, quand elles accouchaient, pouvaient même pas se tourner pour lécher leurs petits. Elles avaient aucune position même pour se gratter ou quoi que ce soit.
De retour à Planète Terre, notre foyer aimant sur Supreme Master Television. Notre émission d'aujourd'hui présente l'éco-sociologue canadienne, auteure et promoteur du commerce équitable, Laure Waridel. Elle se mobilise pour une consommation responsable, depuis les produits que nous choisissons d'acheter jusqu'aux ressources naturelles que nous prélevons pour soutenir nos modes de vie. Les graves effets du changement climatique associés au gaspillage de l'eau par l'humanité, notamment à travers l'élevage du bétail, ont conduit à une pénurie mondiale de cette précieuse ressource. Selon une étude récente, les États-Unis ont la plus grande empreinte en eau à travers le monde, avec environ 2,5 millions de litres par habitant et par an. En revanche, La Chine utilise moins de 0,7 million de litres par habitant chaque année.
La question de l'eau est une grande question parce que l'eau est vitale. On ne peut pas vivre sans eau. Bon, il y a le problème de la contamination de l'eau, mais tout simplement l'absence d'eau, les sécheresses avec les changements climatiques, on s'attend à ce que ce soit un problème qui s'accentue encore davantage. Déjà maintenant, il y a de plus en plus de sécheresses dans plusieurs parties du monde. Le désert qui s'avance et c'est extrêmement préoccupant. C'est pas normal que par exemple, il y a des grands golfs dans des déserts qui vont pomper de l'eau alors que les populations à proximité auront pas suffisamment d'eau pour eux. On pense à certains projets touristiques aussi où là, il y a de l'eau à profusion, il y a un gaspillage d'eau dans des grands hôtels, dans des zones très arides, alors que juste à côté, il y a des familles qui ont pas assez d'eau pour nourrir pour leurs enfants ou pour préparer la nourriture ou pour vaguer à des besoins vraiment de base. Donc il y a une question au niveau de la répartition des ressources de l'eau aussi. L'élevage nécessite beaucoup d'eau, il y a un gaspillage à ce niveau-là aussi.
Le bétail consomme 80% du maïs et 95% de l'avoine cultivée aux États-Unis. Et pour produire seulement un demi-kilo de bœuf, 7 kilos de céréales sont nécessaires. Le problème de la faim dans le monde peut facilement être réglé si nous choisissons de réorienter l'énorme flux de nourriture que l'humanité produit chaque année.
La faim dans le monde est un problème de justice et non pas de quantité de nourriture disponible, parce qu'il y a suffisamment pour nourrir tout le monde. Si les céréales, par exemple, allaient davantage vers la consommation humaine que vers les agrocarburants, par exemple, si on réduit encore une fois notre consommation de viande, on pourrait nourrir beaucoup plus de gens. Donc, il faut voir quel choix alimentaire est-ce qu'on fait. En ce moment, il y a plus d'un milliard de personnes dans le monde qui ont faim. Ça, c'est une personne sur sept. C'est gigantesque. Moi, je vous inviterais à penser à des enfants que vous aimez. On est à plus de 6 millions d'enfants qui meurent de faim chaque année. C'est complètement inacceptable.
Dans un document de 2007, le Bureau néerlandais pour l'analyse des politiques économiques plaidait en faveur d'une taxe sur la viande aux Pays-Bas et prévoyait qu'une telle taxe ferait chuter la consommation de viande de 2/3 dans le pays. Nous avons demandé à Mme Waridel son point de vue sur la taxation de la viande comme moyen de protéger notre biosphère.
Je pense que l'écofiscalité est un élément incontournable dans les solutions à développer. L'écofiscalité, c'est faire en sorte que le prix de ce qu'on paye corresponde davantage au coût environnemental et au coût social qu'il génère. Parce qu'en ce moment, la viande est très bon marché comparativement à l'impact négatif qui génère tant environnemental que social. Puis en termes d'écofiscalité, la viande devrait être plus cher comparativement aux autres. Absolument, je pense que de réduire notre consommation de viande a un impact très positif. Puis je pense qu'il faut découvrir le plaisir qu'on a aussi à manger des repas végétariens. Même les médecins le disent, on consomme trop de viande pour notre santé. Donc, il y a la santé de la planète, il y a même notre santé à nous. On a tout à réduire notre consommation de viande, tout à fait.
L'agriculture biologique présente un grand avantage pour l'environnement, car elle permet de renforcer le sol et ainsi de réduire à la fois les sécheresses et les inondations. En évitant l'utilisation des pesticides, l'agriculture biologique contribue aussi à réduire la pollution globale de l'eau et la perte de la biodiversité. L'Institut Rodel, aux États-Unis, estime que si toute la surface des terres arables dans le monde entier, soit près de 14 millions de kilomètres carrés, était cultivée de manière biologique, le sol pourrait stocker 40% des émissions actuelles de CO2.
Bien, il y a énormément de bienfaits. L'agriculture biologique, puis aussi à dimension humaine, parce que moi, je crois aux productions qui se font non seulement dans le respect des écosystèmes, mais des travailleurs, des travailleuses qui font en sorte que chacun peut vivre dans la dignité, si on veut. Donc, il y a les bienfaits de réduction d'utilisation de pesticides et d'engrais chimiques, évidemment. Agriculture de proximité aussi, quand on parle du local. Donc, on réduit les émissions de gaz à effet de serre. La plupart de l'agriculture bio, il y a une beaucoup plus grande travail qui se fait à la main, à part pour les céréales, mais dans le système maraîcher, donc moins d'émissions de gaz à effet de serre, une plus grande biodiversité aussi. Donc ça a une valeur, ça a tellement de valeur qu'on peut même pas mettre de chiffres là-dessus.
Vos sincères remerciements, Laure Warivel, pour vos efforts dévoués pour nous aider à vite parvenir à un monde écologiquement durable. Puissions-nous tous faire le choix numéro un en matière de consommation responsable, adopter un régime végétalien bio, qui est le plus simple et le plus rapide pour arrêter le réchauffement climatique. Les livres de Laure Warivel sont disponibles sur www.renaudbré.com ou sur www.amazon.com. Téléspectateurs éco-conscients, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour cet épisode de Planète Terre, notre foyer aimant. À venir, divertissement et sagesse, après nouvelles d'exception. Puissent vos jours être bénis de l'amour abondant du ciel. Eco-conscious viewers, thank you for joining us on today's Planet Earth, our loving home. Coming up next is enlightening entertainment after noteworthy news. May your days be blessed with abundant love from heaven.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/PE.